danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Que la société de croissance est absolument insoutenable. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde, sauf Claude Allègre, reconnaissent que nous allons droit dans le mur. Bon. Et donc il est urgent d'en sortir. Ça, c'est ce que nous ont appris, au fond, le Club de Rome, les écologistes, un des plus grands économistes spécialistes de la thermodynamique, Nicolas Georgescu-Ruggen, considéré comme un des pères de la décroissance, qui a montré que l'économie ne se passait pas, comme le pensaient les économistes, dans une mécanique abstraite, mais dans un écosystème limité, et qu'en particulier, elle devait obéir, elle subissait les lois de la thermodynamique, à savoir que la deuxième loi, la loi de l'entropie, c'est qu'une fois qu'on a brûlé du pétrole, eh bien, bien sûr, rien ne se perd, rien ne se crée. On retrouve dans les fumées du pétrole tous les atomes qui avaient dans le pétrole ancien, mais on ne peut plus le remettre. Si on met la fumée dans la bagnole, ça ne marche plus. On ne peut plus réutiliser le pétrole après qu'on l'a brûlé. Et donc, il y a une irréversibilité et une histoire de la planète. On ne peut pas revenir en arrière.
Dans les petits plats, nos six boulots, ce qu'on nous cerne, c'est comme il faut.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Serge Latouche.
De l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Hop ! Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Alors, bonsoir à tous et à toutes. En fait, on pourrait intituler cette causerie « Du délire rationnel de l'algue verte à la sagesse de l'escargot ». Et je partirai aussi d'un mensonge, une fausse fable de Jean de La Fontaine, qui me semble résumer assez bien le propos que je développerai. Un jour, sur un étang, venant je ne sais d'où, l'algue verte arriva, crue, et asphyxia tout. C'était en 1750. On a un très grand étang, mais déjà on commençait à utiliser des engrais chimiques, et comme vous savez, les engrais avec trop de nitrates ne sont pas absorbés par la terre et favorisent le développement des algues vertes. Les algues vertes, c'est des petites bêtes qui prolifèrent, et on sait que quand les étangs sont complètement couverts d'algues vertes, eh bien, ça tue toute vie. C'est ce qu'on appelle l'eutrophisation des étangs. Alors, cette algue verte, elle est toute petite, mais elle a la propriété de croître effectivement, et de croître selon une progression géométrique de raison 2, c'est-à-dire qu'elle double sa surface tous les ans. Mais comme l'étang est très grand, pendant des années, bien sûr, elle croît, mais l'eau est toujours limpide, il y a toujours encore des truites. Au bout d'un siècle ou deux, il n'y a plus de truites, parce que les truites aiment l'eau pure, mais il y a encore des carpes, l'eau est encore limpide. Et puis, tout d'un coup, on arrive dans les années 1980-90, par là, et l'algue verte a colonisé la moitié de l'étang. Combien d'années mettra-t-elle pour coloniser la totalité ? Un an. Eh bien, c'est l'histoire de notre société de consommation, de notre société de croissance. Simplement, au lieu de croître avec une raison à un taux de 100% de doublé chaque année, nous croissons avec un taux de 3%, plus ou moins. C'est-à-dire, à 3%, il faut 25 ans pour doubler la superficie de notre étang, de l'algue verte sur l'étang. Et donc, nous avons colonisé la moitié de notre étang, c'est-à-dire que nous avons épuisé à peu près la moitié du pétrole disponible, la moitié des ressources naturelles, la moitié des capacités, des richesses, des ressources halieutiques, etc. Et nous aurons fini dans 25 ans à peu près, une génération, il nous reste à peu près une génération pour arriver à ce que les spécialistes appellent la sixième extinction des espèces. Vous savez, il y a eu dans l'histoire déjà cinq extinctions. La cinquième qui a eu lieu il y a 65 millions d'années est celle qui a vu disparaître les brontosaures et les dinosaures. Mais cette sixième extinction que nous sommes en train de vivre a trois différences avec les précédentes. Elle se passe à une vitesse accélérée, c'est-à-dire que les espèces disparaissent à la vitesse de 50 à 200 par jour. C'est-à-dire qu'au moment où je parle, il y a une ou deux espèces qui viennent de disparaître. Bien sûr, on ne les voit pas, ce sont souvent des bactéries qui sont dans le sol des forêts tropicales, mais c'est comme ça. Et donc, ce qui est très grave, c'est que les espèces ont la possibilité de s'adapter si les changements et la nature est extraordinaire, si les changements ne sont pas trop brusques. Mais à cette vitesse-là, elles ne peuvent pas. Les oiseaux ne peuvent pas s'adapter si tout d'un coup, les vers qui les nourrissent disparaissent. Eh bien, eux aussi disparaissent. C'est ce qui est en train de se produire. La deuxième différence, c'est que cette sixième extinction est organisée par l'homme. Elle résulte de l'activité humaine. Et troisième différence, c'est que l'homme pourrait bien en être lui aussi la victime. Alors, je partirai d'une réflexion d'un des plus grands philosophes de notre époque, Woody Allen. Woody Allen nous dit, en ce bas monde, il y a trois questions fondamentales. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Et qu'est-ce qu'on va bouffer ce soir ? Alors, la troisième question, Jean m'a dit, c'est réservé au resto. Je sais qu'ici, on mange pas mal. Donc, pour nous, la question est résolue. Je crois même que pour la plupart des gens du Nord, non seulement la survie est assurée, mais on se porterait mieux à manger moins. On est guetté par la surpondération, par l'obésité, par le cholestérol, par le diabète. Vous savez qu'il y a 30% maintenant des jeunes qui sont obèses en Europe, 50% ou 60% aux États-Unis. Il suffit de voyager un peu, on voit. Bon. Et donc, le diabète, bien sûr. Nous mangeons trop de sucre, trop de sel, trop de graisse, en particulier avec ce que notre ami José Bové appelle la malbouffe. Bon, et donc on se porterait mieux à manger moins. Mais c'est vrai que pour encore 2 milliards ou 3 milliards d'êtres humains sur la planète, surtout dans le côte sud, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? C'est une question très importante, c'est une urgence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bouffer. Et pour cette raison, on oublie les deux autres questions. Ce qu'on appelle avec beaucoup d'hypocrisie la communauté internationale a mis à son agenda pour le troisième millénaire de réduire la pauvreté de 50% à l'échelon 2015, d'assurer la santé pour tous. Elle avait déjà promis la santé pour tous pour 2000. Enfin bon, c'est pas beaucoup branché sur la survie de la planète, la survie de l'écosystème, etc. Et l'urgence a bouffé l'importance. Et l'important, c'est où allons-nous et d'où venons-nous ? Alors, où allons-nous ? On l'a beaucoup négligé jusqu'à ces toutes dernières années. Mais maintenant, ça commence à se savoir. Ceux qui n'avaient pas écouté l'avertissement de Rachel Carson en 1962, quand elle a publié « The Silent Spring », « Le printemps silencieux », qui était le premier signal d'alarme des drames de l'environnement, hein. Ceux qui n'avaient pas écouté le signal du premier rapport au Club de Rome, « Halte à la croissance » en 1972, maintenant, il y a une telle accumulation entre, par exemple, le film d'Al Gore, « Une vérité qui dérange », ou bien le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui nous dit que ça va vraiment même beaucoup plus mal qu'il ne l'imaginait, qui regroupe quand même 1300 savants. Le rapport de Nicholas Stern, fondé de pouvoir de la Banque mondiale au gouvernement britannique, qui nous dit que si on ne fait rien, ça va nous coûter très très cher, et pourtant c'est un économiste tout ce qui est de plus orthodoxe. Les rapports du professeur Belpomme, cancérologue, sur la montée des cancers engendrés par la pollution de l'environnement, ces maladies engendrées par l'homme, comme il le dit, le pacte écologique de Nicolas Hulot, etc. Donc en fait, pratiquement, à part Claude Allègre, tout le monde est d'accord, tous les savants savent que ça va très très mal, et que si on ne fait rien, ça va aller encore plus mal. Il n'y a pratiquement pas de jour où je ne reçoive sur mes courriels ou par mes réseaux des informations alarmantes. Un jour, j'apprends qu'il y a un effondrement de la population des abeilles. Bon, vous savez que Einstein disait « quand les abeilles auront disparu, l'humanité n'en aura plus que pour 4 ans à survivre. Les abeilles assurent la pollinisation des plantes, etc. » Et il se trouve qu'on ne sait pas très bien pourquoi, le diagnostic n'est pas sûr, les abeilles ne retrouvent plus leur ruche, donc il y a un effondrement dramatique. Un autre jour, il y a un tsunami dans le sud-est asiatique, un autre jour, un cyclone Katrina en Floride, un autre jour, c'est El Niño qui perturbe et autres ouragans. Un autre jour, il y a une inquiétante montée des cancers ou une inquiétante montée de la stérilité masculine. Un autre jour, c'est la fonte des glaciers que va observer M. Jean-Louis Borloo. Le lendemain, c'est la fonte des calottes glaciaires. Le lendemain, on apprend qu'il y a des sécheresses, des incendies monstrueux en Grèce. Le surlendemain, des inondations au Bangladesh, en Afrique, ou au diable Vauvert. Le jour d'après, j'apprends que les lombris, les vers de terre disparaissent, qui aèrent le sol et qui assurent la reproduction normal, ce qui fait disparaître les oiseaux, etc. Donc maintenant, tout le monde est à peu près d'accord, on va dans le mur si on ne change pas de cap. Mais la troisième question, alors, on est extrêmement discret sur ce point. Que ce soit le film d'Al Gore, qui est magnifique, le diagnostic est très bien, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui nous amène à cette situation? Même chose pour le pacte écologique de Nicolas Hulot, je parle du texte qu'il faut avoir lu, qui est tout à fait remarquable, mais ce qui nous amène à cette situation, il y a un étrange silence. Alors, nous venons d'une société de croissance, et je voudrais expliquer ce qu'est une société de croissance et pourquoi il est nécessaire maintenant, pour sortir du cancer de la croissance, je prends une expression du professeur Belpomme, d'organiser une société de décroissance. Mais évidemment, le problème, c'est comment. Je veux dire, on est une société de croissance. Qu'est-ce que c'est qu'une société de croissance? C'est une société qui s'est petit à petit, entre 1750 et 1989, s'est laissé phagocyter par une économie de croissance. Et une économie de croissance, c'est justement une économie qui obéit à la logique de l'algue verte, c'est-à-dire qui n'a pour logique que la croissance pour la croissance. Non pas la croissance pour satisfaire les besoins. Si la croissance était faite pour satisfaire les besoins, quand les besoins sont satisfaits, on arrête. Nous, on n'arrête pas. En Europe, on n'a pas arrêté. On a produit du lait. Au-delà des besoins, il a fallu ensuite le transformer en lait en poudre. Puis le lait en poudre, on a enlevé les veaux de sous la mer pour nourrir les veaux avec du lait en poudre plutôt qu'avec du lait naturel, etc. Puis le beurre, on a essayé de le transformer, de le vendre un peu partout. Enfin, on ne sait plus ce que faire des excédents. Bon, on a produit au plat. Parce qu'il faut toujours produire plus. Et s'il faut produire plus, il faut consommer plus. et donc il faut forcer les gens à consommer. Et alors, le moteur, ce qui permet ce cycle infernal, consommer toujours plus, produire toujours plus, pour consommer toujours plus, pour produire toujours plus, et ainsi de suite, il y a trois ingrédients qui sont trois pousses au crime, en quelque sorte, qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. Alors, la publicité, c'est ce qui nous rend insatisfaits de ce que nous avons, afin de nous faire désirer ce que nous n'avons pas. C'est un ingrédient essentiel, mais ça nous rend toujours insatisfaits. Donc on n'a jamais le plaisir, le bonheur, la satisfaction, parce qu'on désire toujours, on est toujours défrustré. C'est fait pour nous rendre frustrés, et toujours plus frustrés, afin de consommer toujours plus. Donc ça n'est pas par hasard que la publicité, c'est le deuxième budget mondial après l'armement. La publicité, c'est 500 millions de dollars annuels, mais 500 milliards de dollars, mais 500 milliards de dollars de pollution visuelle. Il suffit de voir les murs des villes, les autoroutes avec les panneaux publicitaires, etc., de pollution auditive avec les transmissions télévisées, les films saucissonnés, de pollution matérielle. Les Français reçoivent en moyenne 50 kilos de publicité dans leur boîte aux lettres, mais ça veut dire 50 kilos par personne d'arbres, de forêts détruites, hein, au moins, oui. De pollution mentale et de pollution spirituelle. Ça s'adresse aux plus faibles. Et alors la publicité a trouvé avec les télévisions son arme de destruction massive, qui s'adresse de préférence aux plus faibles, les enfants des écoles. Alors aux États-Unis, ils ont même trouvé le remède idéal. Les écoles sont sponsorisées par les firmes transnationales qui payent les fournitures des machins. En contrepartie, les enfants doivent voir des émissions télévisées à l'intérieur des écoles. Nous, en France, on vient de suivre, on est bien parti sur la même voie depuis très peu de temps, mais nous, enfin, maintenant, nos enfants passent plus de temps devant les écrans télévisés que dans les salles d'école. Donc il y a déjà longtemps que ce ne sont plus les parents qui élèvent les enfants, mais il y avait au moins l'école. Maintenant, c'est même plus l'école, c'est la télévision, c'est-à-dire Patrick Lelay, qui, comme vous savez, vend du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Bon. Le deuxième ingrédient, c'est l'obsolescence programmée. Alors, l'obsolescence programmée, on a tous l'expérience d'équipements ménagers qui, tout d'un coup, tombent en panne. Alors, tout a l'air en parfait état, et puis il y a une pièce défectueuse. Alors, on va chez le marchand, chez le réparateur, et vous dit, il n'y a pas de pièce, ou bien ce serait possible de réparer, mais ça vous coûtera plus cher que d'en acheter un neuf, parce qu'on trouve des neufs très bon marché, vu que c'est fabriqué en Chine, avec des salaires payés au lance-pierre, et de la main-d'œuvre payée au lance-pierre. Donc, voilà. Alors, donc, on jette des quantités de matériaux qui ont une grande valeur, qui incorporent des ressources naturelles importantes, qui pourraient être réparées, réutilisées, recyclées, et jusqu'à cette paire de lunettes que j'ai découvert l'autre jour, qu'il y a une branche qui a pété. Alors, je suis allé chez mon opticien en dessous, comme c'était un vieux monsieur, il dit, bon, ouais, je peux essayer de vous bricoler, j'ai encore des pièces de rechange. J'ai pas les, bien sûr, ça n'existe plus, des branches, il n'existe pas des branches pour ces lunettes, mais il m'a adapté une autre branche. Seulement la semaine suivante, c'est l'autre branche qui a pété. J'ai dit, là, il y a un truc. Il m'a dit, oui, elles sont faites pour durer 2 ans. Alors, je pensais que j'avais une paire de lunettes pour toute ma vie. Non, il faut rechanger aussi ces lunettes. Et c'est ainsi que chaque mois partent des États-Unis 150 bateaux chargés d'ordinateurs qui pourraient être réparés, etc., et qui vont dans des décharges sauvages au Nigeria où, comme ils contiennent des métaux lourds, des choses qui à la fois ont beaucoup de valeur, sont extrêmement rares, mais qui polluent énormément si ce n'est pas contrôlé, eh bien, vont polluer l'Afrique. Donc l'obsolescence programmée, c'est effectivement indispensable, et avec une durée de vie des équipements de plus en plus courte pour renouveler toujours la consommation. Le troisième pouce au crime, c'est le crédit. Il se peut que vous soyez allergique à la publicité, il se peut que vous n'ayez pas d'appareil de télévision, vous ayez très peu d'équipement, etc. Bon, et que vous n'ayez pas les moyens, en plus, surtout dans des périodes de chômage et de précarité, de consommer. Eh bien, qu'à cela ne tienne, vous allez vous endetter, on va vous prêter de l'argent pour consommer. Mais évidemment, après, c'est là le piège, vous devrez rembourser et rembourser avec l'intérêt. Et donc, par conséquent, vous serez incité, si vous êtes un particulier ou un salarié, à travailler plus pour gagner plus, hein, même si c'est un piège, et pour pouvoir rembourser vos crédits, vos trades, votre appartement, etc. Et si vous êtes un entrepreneur, vous aussi, vous vous endettez aussi pour pouvoir investir. Et donc, par conséquent, vous êtes le crédit, hein, est un dictateur de croissance. Le crédit pousse à produire toujours plus pour gagner toujours plus, pour avoir toujours plus de rentrées, pour pouvoir rembourser avec les taux d'intérêt, puisqu'il faut, il faut rembourser toujours plus que ce qu'on a emprunté. Alors, je dis, oui, que la société de croissance, c'était une société qui était dominée par une économie de croissance. Mais cette domination ne s'est pas faite du jour au lendemain. Hein, on peut dire que, j'ai dit, ça a commencé à peu près en 1750, avec les débuts de la société thermo-industrielle, l'économie thermo-industrielle, c'est-à-dire basée sur l'utilisation d'une source d'énergie fossile, hein, qui a permis une montée en puissance extraordinaire du système productif. D'abord le charbon, puis après le pétrole. Et puis petit à petit, mais l'économie était au sein d'une société d'ancien régime, une société qui avait une autre logique, etc. Et petit à petit, l'économie a grignoté. Alors j'ai dit, ça c'est le virage au moment où on passe d'une société avec économie de croissance ou une société avec économie de marché, c'est la même chose, à une société de marché ou à une société de croissance. Je situerais plus ou moins le virage en 89, parce que ça correspond au moment où on a mis sur orbite la mondialisation, avec les décisions du G8 de Tokyo en 86, où Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont décidé la désintermédiation des marchés financiers. Donc c'est là qu'on a créé un marché financier unique. Et ça correspond aussi à la chute du mur de Berlin, donc à la disparition du deuxième monde, et si le deuxième monde disparaît, il n'y a plus de troisième monde non plus. Et effectivement, c'est le moment où on vit dans un monde unique, un marché unique, avec une pensée unique, hein, qui a été caricaturée par le consensus de Washington. Cette société de croissance n'est ni soutenable, ni souhaitable. Alors, ni soutenable, j'ai évoqué un certain nombre de catastrophes qui vont en s'accélérant. Mais nous en avons maintenant, de l'insoutenabilité de ce système, un indice scientifique, un des plus scientifiques qu'on puisse imaginer, qui devient assez populaire, je pense que même à Corbigny, on en a entendu parler, c'est l'empreinte écologique. Qu'est-ce que c'est que l'empreinte écologique? L'empreinte écologique, c'est ce que pèse notre mode de vie sur la biosphère. Alors, tout ce que nous produisons, tout ce que nous consommons se traduit par une certaine consommation de ressources naturelles, donc d'espace, de terre, bien sûr, ce que l'on mange, mais aussi les vêtements qu'on porte, mais aussi les produits qui viennent avec des minéraux, les poissons. Bon, tout ça, mais aussi le recyclage de nos déchets. Hein, chaque fois que nous brûlons un litre de pétrole, hein, ou d'essence, eh bien, il faut 5 mètres carrés annuels de forêt pour recycler le dioxyde de carbone que nous avons émis, hein, sous peine de détruire l'écosystème. On peut réduire, la superficie de la Terre est limitée, elle représente 51 milliards d'hectares, hein, pas un de plus, pas un de moins, mais tous ces hectares ne sont pas bioproductifs, ne sont pas utiles pour la production et la consommation. Le fond des océans ne peut guère servir que pour mettre les déchets nucléaires des soviétiques. Le sommet de l'Himalaya sert aux alpinistes pour mettre leurs canettes de bière. Mais à part ça, c'est pas vraiment ça qui va nous nourrir et produire. Donc l'espace bioproductif, avec un certain nombre de coefficients, un mètre carré ou un kilomètre carré d'océan poissonneux n'est pas la même chose qu'un kilomètre carré d'une terre agricole dans la Brie ou dans la Beauce. Donc les experts ont choisi plus ou moins, à partir d'études, des coefficients de transformation, et ils ont estimé que la valeur de la quantité d'espace bioproductif était de 12 milliards d'hectares, donc sur 51 milliards d'hectares de planète. Comme nous sommes à peu près 6 milliards et demi d'êtres humains, ça donne par tête d'habitants 1 hectare 8. Nous avons à disposition pour consommer de façon soutenable 1 hectare 8. Or, d'ores et déjà, la consommation du citoyen du monde, toute race, toute classe, tout pays, toute couleur confondue, est de 2 hectares 2, 2 hectares 3, c'est-à-dire que nous dépassons la capacité de régénération de la biosphère d'environ 30%. Bon, 30%, ce n'est pas encore monstrueux, mais enfin, ça veut dire que ça ne pourra pas durer indéfiniment. Mais comment pouvons-nous dépasser la capacité de régénération de la biosphère? Tout simplement parce que nous faisons comme les enfants prodigues. Nous ne nous contentons pas de vivre sur le revenu, nous dévorons le patrimoine. C'est ainsi qu'en une année, nous brûlons ce que la photosynthèse sur l'ensemble de la planète a produit en 100 000 ans. Ça concerne essentiellement le pétrole, évidemment. Mais derrière cette moyenne se cachent des différences fantastiques. C'est-à-dire que nous, Français, notre empreinte écologique est de 5 hectares 6, c'est-à-dire que si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait 3 planètes. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le président Chirac dans son discours de Johannesburg, son fameux discours « La maison brûle » et pendant ce temps-là, nous regardons derrière. Nous avons encore quelques efforts à faire pour rejoindre nos amis américains qui dévorent 9 hectares 6 ou nos amis canadiens qui sont à 7 hectares et demi plus ou moins. C'est-à-dire que si tout le monde vivait comme les Américains, il faudrait 6 planètes environ. Alors comment c'est possible? Parce que même en vivant sur le patrimoine, ça ne serait pas possible. Alors c'est possible parce que, contrairement à l'idée reçue, ce sont les pays du Sud qui nous apportent une assistance technique massive. Nos amis africains en particulier nous aident énormément, ils se serrent la ceinture et les Burkinabés, par exemple, consomment 0,1 hectare d'espace bioproductif. Ce qui fait que si tout le monde vivait comme les Burkinabés, la planète pourrait nourrir facilement 23 milliards d'habitants. En revanche, si tout le monde vivait comme les Australiens, eh bien, il faudrait fermer la porte après 600 millions, c'est-à-dire qu'il faudrait exterminer les 9 dixièmes de la population mondiale. Mais de toute façon, ça ne pourra pas durer très longtemps, parce que si nous continuons cette société de croissance avec un taux qui est très inférieur à celui que le président Sarkozy veut aller chercher avec les dents, un taux de 2%, eh bien, à l'échelon 2050, ce n'est pas 3 planètes, comme actuellement pour les Français, ce n'est pas 6 planètes comme les Américains, c'est 30 planètes qu'il faudra. Alors là, on ne les trouvera pas. Mais cette société de croissance n'est pas non plus souhaitable. Et ça, c'est une leçon très ancienne, celle qui a été prêchée par mon maître Ivan Illich dès les années 70, qu'on vivrait mieux si on vivait autrement. C'est-à-dire que non seulement cette société n'est pas soutenable, mais en plus, elle ne tient pas ses promesses, elle trahit ses promesses, puisqu'elle nous rend toujours plus insatisfaits. Plus nous accumulons et plus nous consommons, plus nous sommes insatisfaits, plus nous sommes stressés, plus nous sommes obsédés par la fuite du temps, par des tas de problèmes. Alors, même des économistes ont abordé, et c'est un ancien économiste de la Banque mondiale qui a démissionné quand il s'est rendu compte que ce qu'on lui faisait faire à la Banque mondiale, ce n'était pas vraiment satisfaisant. Et ça n'est pas Stiglitz, c'est Herman Daly qui avait démissionné quelques années auparavant. Et alors il s'est attaché à étudier, au fond, à corriger l'indice fétiche de la croissance qui, dans tout le monde occidental, représente en quelque sorte et serait une mesure du bien-être. Alors là, on est en plein dans le mensonge. Les économistes ont transformé le bonheur en bien-être et le bien-être en niveau de consommation et la consommation en quantité, donc d'achat, etc. Et a montré que si on défalquait du produit intérieur brut les dépenses de réparation et de compensation, c'est-à-dire que vous consommez, vous gagnez toujours plus, vous consommez toujours plus, mais vous devez consommer toujours plus pour réparer les dégâts qui ont été engendrés par cette croissance. Parce que la croissance vous stresse Et c'est ainsi que nous, Français, nous sommes devenus les champions de la consommation d'antidépressifs. Nous bouffons nous boulotons du Prozac, ce qui nous permet de tenir le coup, de produire encore plus, de travailler encore plus pour gagner plus et d'être encore plus stressé et donc de pouvoir consommer encore plus de Prozac. Alors, mais ça ne va pas que pour ça, on peut même ne pas être dépressif comme moi et avoir une bronchite chronique à cause de la pollution de l'atmosphère et donc obligé d'aller tous les hivers chez le médecin, chez le pharmacien et de dépenser des sommes importantes. Si bien qu'en fin de compte, au final, plus la consommation croît, plus le produit croît, plus le bien-être, plus le bien-avoir statistique augmente, plus le bien-être vécu diminue. On s'aperçoit que, eh bien, même dans les pays du Nord, je ne parle pas des pays du Sud où le développement de la société de croissance a engendré alors là des problèmes encore plus graves, mais même dans les pays du Nord, cette société de croissance ne rend pas vraiment heureux et donc on vivrait mieux si on vivait autrement et on serait bien fondé de retrouver la sagesse de l'escargot dont parle Ivan Illich. Alors l'escargot a deux leçons à nous donner. La lenteur, bien sûr, elle est bien connue. Mais il en a une autre plus intéressante. Je vous cite pour conclure cette première partie. L'escargot, nous explique Ivan Illich, construit la délicate architecture de sa coquille en ajoutant l'une après l'autre des spires toujours plus larges. Puis il cesse brusquement et commence des enroulements, cette fois décroissants. C'est qu'une seule spire, encore plus large, donnerait à la coquille une dimension 16 fois plus grande, en raison de la progression géométrique. Au lieu de contribuer au bien-être de l'animal, elle le surchargerait. Dès lors, toute augmentation de sa productivité servirait seulement à pallier les difficultés créées par cet agrandissement de la coquille, au-delà des limites fixées par sa finalité. Passer le point limite d'élargissement des spires, les problèmes de la surcroissance se multiplient en progression géométrique, tandis que la capacité biologique de l'escargot ne peut au mieux que suivre une progression arithmétique. Ce divorce de l'escargot d'avec la raison géométrique, que lui aussi avait épousé, comme l'Occident l'a fait à partir des années 1750, nous montre la voie pour penser une société de décroissance et une société de décroissance, si possible, sereine et conviviale.
Pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Ma jolie danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Serge Latouche.
Alors j'en arrive à ma deuxième partie, après avoir montré la nécessité de sortir de la société de croissance. Alors, qu'est-ce que la décroissance et Alors d'abord, je dirais que la décroissance, on me dit souvent, les journalistes me disent, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept? Vous savez, les journalistes adorent les concepts. Quand il y a une nouvelle mini-jupe qui sort, on dit, bon, c'est un concept, le concept de la mini-jupe. Je pense que les concepts, c'est la décroissance, c'est sûrement pas un concept, en tout cas pas un concept économique. La croissance est un concept économique. On fait des théories économiques de la croissance, des modèles économiques de la croissance. J'espère qu'on ne fera jamais de théorie économique de la décroissance, ni de modèle économique de décroissance. La décroissance, c'est d'abord un slogan. C'est un slogan pour marquer la nécessité de sortir de la langue de bois économiciste, développementiste, croissance, hein, qu'on nous serine encore actuellement, et pour marquer la nécessité d'une rupture. Si on voulait être vraiment rigoureux, utiliser un terme rigoureux, mais on vit dans un monde qui est dominé par le mensonge, donc par la rhétorique, et par les médias, donc il s'agit de convaincre les gens, de les sensibiliser pour consommer le produit, plus que d'utiliser une argumentation rationnelle. Même l'un n'empêche pas forcément l'autre quand on est dans la vérité. Mais il faut quand même utiliser les armes de l'adversaire, les armes de la rhétorique. Donc si on voulait être purement rationnel et un peu emmerdeur, et emmerdant, eh bien on parlerait d'accroissance avec ce A privatif grec, n'est-ce pas, qu'on a dans athéisme. Et d'ailleurs, finalement, il s'agit de la même chose. Il s'agit de sortir d'une religion, d'une foi, d'une croyance, la religion de la croissance qui a colonisé notre imaginaire petit à petit à partir de 1750 et qui donc nous rend toxico-dépendants de ce système. Donc, donc de sortir de cette foi dans le progrès, de cette foi dans l'économie, de cette religion. Alors comment ? Alors lorsque je faisais mes études d'économie au cœur des Trente Glorieuses, c'est-à-dire les périodes de 1945-1975, mes bons maîtres se gargarisaient des cercles vertueux de la croissance. C'était formidable. Les cercles vertueux de la croissance, c'était, comme on dit maintenant, des jeux gagnant-gagnant-gagnant. Parce que la croissance engendrait des gains de productivité. Ces gains de productivité étaient répartis. Les patrons servaient, ils servaient bien déjà. Il y avait déjà l'union des industries métallurgiques là, qui s'en mettaient plein les poches. Bon, mais quand même, il restait des miettes pour les salariés. Donc les patrons gagnaient avec les gains de productivité. Les salariés aussi, c'est ce qu'on appelait le partage des gains de productivité. Et l'État aussi gagnait parce que les impôts rentraient mieux. Et donc ça permettait de payer le social, la sécurité sociale, les allocations familiales, les services publics. La classe ouvrière atteignait le paradis. Bon. Seulement, il y avait deux perdants dont on ne parlait pas dans cette affaire. C'était les pays du tiers-monde, du Sud, qui pendant cette période s'enfonçaient de plus en plus dans le sous-développement, et puis la nature. Alors la nature, elle nous présente la note maintenant. Parce que si aujourd'hui nous avons un dérèglement climatique, ce n'est pas à cause de nos folies actuelles et de notre surconsommation actuelle, c'est à cause de nos folies des années 60-70, c'était parce qu'il faut 20 à 30 ans au minimum, de 30 à 50 ans, pour que le dioxyde de carbone que nous envoyons dans l'atmosphère produise ces effets de dérèglement climatique que nous observons actuellement. Ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui paieront la note de nos folies d'aujourd'hui. Malgré tout, j'ai gardé la nostalgie de l'idée de ces cercles vertueux et j'ai proposé de construire une société de décroissance à partir d'un schéma d'ensemble d'actions, d'étapes qui sont, toutes commencent par un R. Alors, en fait, il y en a 9. C'est le projet de la construction d'une société autonome. C'est un projet qui n'est pas nouveau. La société thermo-industrielle a engendré dès son départ tellement de misère, de souffrance dans l'humanité qu'immédiatement il y a eu des projets d'en sortir. Ça a été le socialisme utopique, puis le mouvement de l'économie sociale, puis des coopératives de production, de consommation, puis l'économie. Toujours une renaissance perpétuelle. On peut dire que le mouvement actuel de la décroissance n'est qu'une nouvelle renaissance avec une nouvelle génération de ce projet. Toujours ce projet, c'était quoi ? Ce qu'on trouve chez les premiers socialistes utopiques, le projet de se réapproprier, c'est l'idée de sortir de l'aliénation de la société industrielle, de se réapproprier sa propre vie. Parce qu'au fond, la modernité a trahi ses promesses, car aujourd'hui nous avons construit la société peut-être la plus hétéronome de l'histoire, beaucoup plus hétéronome peut-être et de façon beaucoup plus dramatique que la société d'Ancien Régime. Nous sommes devenus dépendants de la main invisible du marché, et de la dictature des marchés financiers, et de la technoscience. Est-ce qu'on peut imaginer hétéronomie plus forte ? Donc il s'agit bien de réaliser ce projet trahi de la modernité, de se réapproprier notre propre histoire, notre propre destin, notre propre futur, de façon à construire une démocratie écologique soutenable. Ça n'est pas un programme politique dans le petit traité de la décroissance sereine, en troisième partie, je propose un programme politique. Programme politique, c'est très simple. D'ailleurs, c'est ce qui se débat un peu dans le Grenelle de l'environnement. Il y a des très belles propositions sur le moratoire sur les OGM, moratoire sur les autoroutes, moratoire sur ceci, sur cela. Le problème, c'est de passer à l'acte. ce n'est pas d'avoir des idées sur un programme, ça c'est assez facile, un programme écologique. Notre ami André Gors vient de mourir, il écrivait déjà, il faisait déjà des programmes avec des scénarios extrêmement précis il y a 30 ans. Le problème, c'est que personne, aucun gouvernement n'a mis en application ce type de programme. Donc ce qui est intéressant, c'est de fixer l'objectif. Donc c'est un projet politique, la construction de la société de décroissance. C'est un projet de politique, ça n'est pas encore un programme politique. C'est une utopie. Alors on dit c'est utopique. Oui, c'est utopique. Alors je revendique hautement le caractère utopique. C'est l'utopie au bon sens du terme. Nous avons besoin, face à une société qui nous mène à la catastrophe, nous avons besoin de rêver d'un autre monde possible. Rêver d'un autre monde, mais pas d'un autre monde de fiction, d'un autre monde possible. C'est possible, comme on disait à Porto Alegre, c'est possible si nous le voulons. Donc c'est une utopie concrète que j'articule en huit actions, avec la neuvième qui est au cœur de toutes les actions, résister. Alors le point de départ théorique, c'est évidemment pas un point de départ pratique, on ne peut pas faire un programme, réévaluer. Réévaluer, ça veut dire changer les valeurs sur lesquelles nous fonctionnons, hein, et qui nous mènent qui sont à la base de cette société de croissance, qui nous mènent à la catastrophe. Alors quelles sont ces valeurs ? Eh bien, les valeurs qu'on voit diffusées, etc., c'est essentiellement gagner au maximum, hein, par tous les moyens, toujours plus, l'argent, le pouvoir, éventuellement en écrasant les autres. Alors, on voit bien que c'est ça qui mène, qui est la base, qui est le moteur de cette société de croissance, ces valeurs, et ce sont ces valeurs que nos enfants ingurgitent à haute dose, hein, à travers la télévision en particulier, mais pas seulement. On voit bien qu'il faudrait rééquilibrer cette concurrence effrénée, qui est la guerre économique, par des valeurs de coopération, des valeurs d'altruisme, et surtout changer le rapport à la nature, hein, c'est-à-dire de la modernité, c'est aussi fondé sur l'idée de Descartes, de faire de l'homme un maître et un dominateur de la nature, donc un prédateur. L'homme fait partie de la nature, nous devons accepter notre situation d'être dans la nature et vivre en harmonie avec elle, bien sûr vivre de la nature mais sans la détruire, parce qu'en détruisant la nature, nous détruisons la base sur laquelle nous vivons nous-mêmes. Traiter la nature comme un bon jardinier et non comme un destructeur. Si l'on change les valeurs, si ces valeurs changent, ça va entraîner un changement des catégories avec lesquelles on appréhende la réalité, en particulier les catégories, la conception de la richesse. Et si on reconceptualise la richesse, eh bien on reconceptualise aussi la pauvreté. Et je pense au très beau livre de mon ami Magil Ranema, « Quand la misère chasse la pauvreté ». La pauvreté, pendant des siècles, était une valeur, mais l'économie a transformé la pauvreté en misère. Hein, et c'est devenu vraiment... Alors évidemment, la pauvreté, c'était vivre du nécessaire sans avoir le superflu. Une certaine forme de sobriété qu'il faut reconsidérer. C'est aussi remettre en question le couple fondateur de l'économie, couple diabolique, de l'abondance et de la rareté. Hein, la rareté a été inventée par les économistes entre le XVIe et XVIIIe siècle avec la privatisation de ce qu'on appelait les commons, les biens communs, ou les communaux, on appelait ça, c'est-à-dire la possibilité pour tous d'utiliser, de faire pâturer des bêtes après la récolte. À partir du moment du mouvement des enclosures, qui a été un mouvement dramatique en Angleterre, surtout à partir du XVIe siècle, la privatisation des biens communs prive évidemment les pauvres de l'accès au patrimoine, aux ressources naturelles. Cette privatisation des biens communs, elle se poursuit aujourd'hui avec la privatisation de l'eau, mais c'est ce qui se poursuit avec l'enjeu des OGM, comme vous l'a expliqué Jean-Pierre Berland seulement. L'enjeu des OGM, c'est précisément la privatisation du vivant et l'expropriation du droit du paysan à laisser se reproduire librement les semences sur sa terre. Donc ça, c'est très grave, ce truc. Si on change ces valeurs et ces concepts, on est amené évidemment à changer les façons de produire, hein, et ce qu'on produit. Donc on va transformer les modes de production, les rapports de production. Alors c'est là qu'on trouve une des questions les plus redoutables. Oui, mais alors est-ce que ça veut dire qu'il faut sortir du capitalisme ? Alors souvent, dans les conférences, il y a souvent un anarchiste dans la salle qui me dit « mais vous êtes réformiste, etc. » Parce qu'ils ne disent pas que la vraie responsable, c'est le capitalisme. Je dis « si, mais qu'est-ce qu'on vous avait dit ça ?» ça ne vous a pas avancé beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire sortir du capitalisme? Alors je dirais que pour moi, pour donner une réponse brève, on pourra en discuter après, sortir du capitalisme, c'est sortir de l'esprit du capitalisme. On a pu abolir la propriété des moyens de production, on a pu tenter d'abolir même les échanges marchands, etc. On n'a pas aboli la société de croissance et sa logique prédatrice et sa logique destructrice. Hein, on a créé une société avec Tchernobyl, la nomenclatura, des inégalités et beaucoup de problèmes. Donc, mais c'est sortir le capitalisme de nos têtes, hein, sortir de l'esprit du capitalisme au sens où en parle Max Weber. Mais sortir de l'esprit du capitalisme, c'est à peu près la même chose que changer les valeurs. C'est décoloniser notre imaginaire. Alors qu'est-ce que c'est que la colonisation de l'imaginaire? Ça se passe à travers la publicité, la propagande, l'information, etc. J'utilise souvent un proverbe qui a été énoncé par Mark Twain, mais qu'il a dû reprendre dans La Sagesse des Nations. Il dit, quand on a un marteau dans la tête, on a tendance à voir tous les problèmes sous la forme de clous. Eh bien, c'est très précisément ce qui nous arrive. Nous avons un marteau dans la tête, hein, c'est l'économie, et nous voyons tous les problèmes sous la forme économique, c'est-à-dire, en fait, tous les problèmes. C'est la religion de la croissance qui a colonisé nos neurones, hein, et nous voyons tout à travers ces problèmes-là. Bon, il faut prendre conscience, c'est déjà un premier pas vers la réévaluation, il faut prendre conscience que c'est propre à une société dans l'histoire, évidemment une société qui est en train de bouffer toutes les autres, la société occidentale, et même dans la société occidentale, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Avant le XVIIIe siècle, il n'y avait pas le marteau économique dans la tête des gens. Redistribuer, si on a restructuré, bien sûr, ça entraîne une redistribution des richesses et une redistribution du droit de tirage. Hein. Donc on a vu que l'empreinte écologique était extrêmement inégale au niveau planétaire. On arrive à ce résultat à l'heure actuelle que moins de 20% de la population du monde, c'est-à-dire nous, occidentaux, consommons plus de 86% des ressources de la planète. Donc on est arrivé à des niveaux d'inégalité extraordinaires. L'une des formes de faire fonctionner tout ça, c'est la relocalisation, c'est-à-dire retrouver le sens du local. Alors relocaliser, bien sûr, relocaliser l'économie, c'est fondamental. Avec la mondialisation, on a assisté au plus extraordinaire déménagement planétaire. On arrive à cette situation parfaitement rationnelle et totalement absurde, hein, où chaque jour, 4000 camions franchissent le col du Pertus pour transporter des tomates d'Andalousie en Hollande et des tomates hollandaises en Espagne. Bon. Alors, des exemples comme ça, on en a des centaines. Hein, les langoustines écossaises, qui, depuis qu'elles ont été rachetées par des fonds de pension américains, ne sont plus traitées par des usines en Écosse, mais sont traités à la main en Thaïlande et reviennent ensuite en Écosse avec toutes les consommations. Ça coûte quelques centimes de moins, mais ça consomme évidemment beaucoup plus d'énergie. Les crevettes danoises qui vont se faire nettoyer au Maroc, etc. Enfin bon, du point de vue de l'objectif de la société de la décroissance, la relocalisation, c'est beaucoup plus que ça. C'est redonner sens au local, donc c'est une relocalisation du sens de la vie. À l'heure actuelle, nous sommes arrivés à un point où on vit de plus en plus virtuellement, mais on consomme réellement du transport de l'espace, soit parce qu'on consomme, soit par le tourisme, soit par les voyages, etc. On se déplace de plus en plus. Et donc, par conséquent, il faudra apprendre à voyager virtuellement, hein, et à vivre réellement là où on est. Donc, redonner du sens au niveau culturel, au niveau politique et bien sûr, au niveau économique. Ce qui entraînera ipso facto une énorme réduction des consommations d'énergie, mais aussi la réduction nécessaire des surconsommations, des gâchis, etc. Mais je voudrais insister sur une réduction qui me semble à moi extrêmement importante et totalement à contre-courant des idées actuelles, c'est la réduction du temps de travail. Hein, vous savez que dans une récente campagne électorale, un candidat s'est fait une grande réputation en lançant le slogan « Travailler plus pour gagner plus ». Alors d'abord, du point de vue de la simple orthodoxie économique, c'est une aberration. Parce que les économistes nous apprennent que lorsque l'offre est supérieure à la demande, eh bien, ça entraîne un effondrement des prix. Eh bien, à l'heure actuelle, l'offre de travail est très supérieure à la demande, puisqu'on a plus de 10% de chômeurs. Hein. Et donc, si on offre de travailler encore plus, eh bien, non seulement on ne va pas gagner plus, mais on va gagner moins. Mais le projet de la décroissance, ce n'est pas travailler moins pour gagner plus, ou pas seulement, ça c'est très bien, travailler moins pour gagner plus. Aussi, comme proposait mon ami Guy Asnard dans les années 80, travailler moins pour travailler tous, donc c'est la solution que nous proposons pour résoudre le problème du chômage, mais c'est surtout travailler moins pour vivre mieux. Travailler moins pour vivre mieux, c'est-à-dire avoir le loisir pour vivre en citoyen, être citoyen dans la cité, ce qui prend pas mal de temps, hein, s'occuper des affaires de la cité, donc retrouver ce que la praxis, la vie politique, mais aussi retrouver le loisir, s'occuper de ses hobbies, de sa famille, de ses enfants, avoir, redécouvrir les autres dimensions de la vie qui ont été écrasées littéralement par le culte du travail, ce que les Américains appellent le work alcoholism, la toxicodépendance du travail, qui a été déjà là aussi dénoncé il y a plus d'un siècle par Paul Lafargue dans un bouquin que j'ai relu récemment et qui reste toujours d'une très grande fraîcheur, hein, le droit à la paresse. Réduire amène évidemment réutiliser, la réutilisation, hein, on a évoqué l'obsolescence programmée, la réutilisation créera aussi ou recréera des quantités de métiers en permettant d'économiser beaucoup de ressources et ce qu'on ne peut pas réutiliser, le recyclage. Alors pour terminer, j'évoquerai une autre petite parabole que j'emprunte à Hubert Reeve. Hubert Reeve raconte l'histoire suivante. Un jour, il y a une planète qui passe à proximité de la Terre. Alors la Terre et elle, ce sont deux vieilles copines. Elles ne se rencontrent pas très souvent. Il faut quelques millions d'années avec les circuits des planètes pour qu'elles se rencontrent. Mais alors la planète demande à la Terre comment ça va, vieille branche. Alors la Terre dit ça ne va pas très bien. Je crois que j'ai attrapé une maladie mortelle. Elle dit, comment s'appelle cette maladie? Elle s'appelle l'humanité. Oh, dit l'autre, je connais, je suis passé par là, ça disparaît tout seul. Et donc, ce n'est pas trop grave. Effectivement, on pourrait penser, après ce que j'ai raconté en introduction, que nous sommes en train de vivre, puisque nous sommes en train de vivre la sixième extinction des espèces, que l'humanité est une espèce suicidaire. C'est l'hypothèse que soutiennent un certain nombre de gens très bien. Monsieur Yves Pacalette, qui a longtemps travaillé avec le commandant Cousteau, en a fait un livre qui s'appelle « L'humanité va disparaître, bon débarras ». C'est aussi ce que soutient mon ami Denis Duclos dans des articles du Monde diplomatique, vous avez peut-être eu l'occasion de lire, etc. Alors, le pari de la décroissance, puisque j'ai intitulé mon ouvrage principal là, sur ce sujet, « Le pari de la décroissance ». Le pari de la décroissance est autre. Le pari de la décroissance est que la société de croissance est suicidaire, mais toutes les sociétés de l'histoire ne sont pas des sociétés de croissance. Ce qui est suicidaire, ce n'est pas l'humanité, ce n'est pas de l'essence de l'humanité que serait ce caractère suicidaire, c'est de l'essence de la société de croissance. Et par conséquent, le deuxième volet du pari, c'est qu'il est possible de construire une société non suicidaire et une société autonome où on pourrait vivre bien si on vivait autrement. Et enfin, le pari de la décroissance, c'est le pari que l'humanité obéit essentiellement à deux forces. Je dirais une force d'attraction, une force de répulsion. La force d'attraction, c'est l'idéal. Alors, même chez les pires salopards, il y a l'aspiration à un monde meilleur, à quelque chose, ça serait très bien si tout le monde s'aimait, si on vivait mieux, etc. Mais on sait qu'il y a les dures contraintes de la réalité qui fait que on est amené à se comporter mal. Mais c'est très important d'avoir une aspiration. Et donc l'utopie concrète de la décroissance, c'est précisément cet idéal qui peut nous permettre d'aspirer à une société. Je dis souvent, le projet de la décroissance, ce n'est pas une alternative. Il n'y a pas un projet qui est fini comme ça. Sûrement que la société de décroissance ne se construira pas de la même façon à Tombouctou, en Amérique latine, en Chine ou chez nous. Mais c'est une matrice d'alternative. C'est une matrice d'alternative en ce sens que ça vise à soulever le couvercle, la chape de plomb de cette économicisme, de cette dictature, de cette religion de la croissance, de cette dictature, hein, de la logique de la croissance. Et la deuxième force, qui est la force de répulsion, c'est le coup de pied dans le cul. c'est la contrainte. Alors, la contrainte, c'est les menaces. Alors, nous sommes dans une situation très... Alors, le pari, c'est que, eh bien, l'aspiration à l'idéal, combinée à la menace des catastrophes, poussera l'humanité dans la voie de la construction d'une société d'une démocratie écologique soutenable, plutôt que vers un suicide collectif. Alors, c'est un pari, et comme tous les paris, c'est pas gagné, mais ça vaut le coup de le tenter. Merci.
Danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble est bien plus beau grâce à cette université des bistrots. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.